l'association a contribué à l'achat de ce tableau qui vient enrichir les collections anciennes du musée de Caen, hein, du musée des Beaux-Arts de Caen. C'est très intéressant parce que vous avez un autre très beau tableau qui représente Sainte-Claire en train de se faire couper les cheveux quand elle arrive à la portioncule. Ça fait donc deux très beaux tableaux anciens qui se trouvent au musée des Beaux-Arts de Caen. Donc si vous allez à Caen, n'hésitez pas à aller voir ce tableau. D'ailleurs, je signale qu'en fin janvier, hein, vendredi 27, vous aurez une journée d'études autour de ce tableau, avec notamment la participation de Jacques Dallarin. Et voilà, c'était simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire de vos cotisations et comment on peut les utiliser. Et c'était aussi une manière de vous encourager à continuer. Voilà.
Donc nous sommes heureux ce soir d'accueillir Monsieur Aymeric Secours Armel, qui est un arrière-arrière-arrière-petit-fils de Léon Armel, une grande figure du catholicisme social. L'an dernier, on a fait une conférence sur le père Ludovic de Besse, capucin, lui-même aussi militant du catholicisme social, mais dans une version plus favorable au capitalisme, hein, c'est les banques populaires, et aussi et plus libérales que Léon Armel, qui faisait plus confiance à l'action et aux possibilités de l'État pour réguler la société. Mais tous les deux, Ludovic de Besse croyait que ces banques, c'était la solution pour la paix sociale. Donc le titre de la conférence, Léon Armel, l'origine catholique de la paix sociale dans le monde contemporain. Léon Armel, c'est un tertiaire, c'est l'usine chrétienne du Val des Bois, dans l'Aisne, et c'est un ami de Léon XIII qui participe à l'élaboration de l'encyclique Rerum Novarum, la grande encyclique sociale du pape Léon XIII, et qui participe aussi à sa réception en Europe. Je vous laisse la parole.
Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin du micro. Si, du micro ? D'accord. Non, c'est bon. Non, ça ne me dérange pas. Donc, merci de votre accueil. Déjà, je pensais qu'au début de la conférence, on pouvait penser à tous ceux qui sont au ciel de cette époque-là, en fait, de la fin du 19e siècle. J'ai essayé de trouver ceux qui avaient été béatifiés ou canonisés, parce que ceux-là, on est sûr qu'ils sont au ciel, donc qui peuvent nous éclairer pour cette conférence ce soir. Donc il y a Saint Jean Bosco, que Léon Armel connaissait très bien, le bienheureux Rua, qui était l'adjoint de Don Bosco, la bienheureuse Hélène Chapotin, qui était responsable des franciscaines missionnaires de Marie, qui a eu des sœurs qui sont allées dans l'usine de Léon Armel pour apprendre le métier et pour ensuite elle-même encadrer les ouvrières. Il y a le pape Pie IX, bienheureux, Saint Pie X, le bienheureux père Brisson, fondateur des Oblats de Saint-François de Sales, et le bienheureux Giuseppe Tognolo, qui était un peu l'équivalent de René de la Tour du Pin en Italie. Donc, qui est un peu un théoricien de la doctrine sociale de l'Église et qui a été béatifié récemment. Voilà, donc toute cette population du ciel nous oriente en fait dans la redécouverte de cette époque qui est donc la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, donc Léon Armel, lui, il est très actif à la fin du 19e. Mais il naît en 1829. Il est issu d'une famille qui est à l'origine forgeron et qui, du fait de l'avènement de l'Empire napoléonien, en fait, a été complètement. Les villages ont été complètement rasés. Et donc, ils essayent de repartir de rien. Et ils se débrouillent pour récupérer de la laine de mouton. Ensuite, il l'apporte dans les centres lainiers qui commencent à se développer. Et après, il met en place sa propre petite filature. Et c'est une des premières filatures mécaniques donc, de l'Empire français. Donc ça, c'est son grand-père qui fait ça. L'entrepreneuriat, en fait, est familial. Donc, parmi les enfants du grand-père, il y a plusieurs usines qui se montent. Donc, Sainte-Cécile en Belgique. Et ensuite, les trois autres qui sont en Champagne. Celle qui nous intéresse, c'est celle du Val des Bois. Donc, le Val des Bois, c'est celle qui échoit au père de Léon Armel. Les autres allant donc dans d'autres branches de la famille. Donc, le Val des Bois, c'est à côté de Reims. Et Léon Armel garde toujours le souvenir de son origine modeste. Dans son usine, il habite. Vous voyez la maison juste à côté de la chapelle. Donc c'est quand même une belle maison. Mais dedans, ils sont très nombreux. Il avait beaucoup d'enfants. Et il vivait très très simplement. Donc suivant cela, le mode de vie du tertiaire franciscain, qui malgré des moyens importants, met tout son cœur à vivre dans une certaine simplicité. Voilà, donc il a vraiment essayé de vivre simplement. Donc je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc il retourne il est dans cette usine, il naît à cet endroit-là. Il pense en fait à devenir prêtre. Alors il fait des études déjà à Reims pour son collège, mais ses parents voient qu'il commence à pas avoir une très bonne mentalité. Donc ses parents l'envoient en internat à Senlis, donc au nord de Paris, où j'habite maintenant et où il y a des Clarisses. Et Senlis, en fait, c'était le seul collège avec un. Enfin, ils étaient deux en France à être vraiment libres en 1850. Donc avec un enseignement vraiment chrétien. Et là-bas, à Senlis, il adhère aux conférences Saint-Vincent de Paul. Il vit les événements de 1848. Et il se rend compte, avec les conférences Saint-Vincent de Paul, de la pauvreté de la population ouvrière. Il pensait vraiment devenir prêtre. Et finalement, les événements, en fait, alors il aime bien dire au long de sa vie que les événements sont les messagers de Dieu. Et donc les événements font qu'il doit arrêter ses études pour s'occuper d'un de ses frères qui est malade. Et de fil en aiguille, du coup, il retourne à l'usine, en interrompant ses études. Il rencontre une belle jeune fille, et puis il change d'avis, donc il se marie. Et il reprend la direction de l'usine en 1852. Alors, dans sa famille, il se retrouve en fait à 25 ans à devoir gérer l'usine parce que son père est malade et ses deux frères ne peuvent pas. Alors, donc l'usine, là vous voyez un peu la taille, donc c'est quand même une grande usine pour l'époque. C'est très rare, en fait, au XIXe siècle, qu'il y ait des usines qui dépassent 1000 personnes. Donc ça fait partie des gros établissements. Les plus gros établissements en France étaient Schneider, au Creusot, où là, je crois qu'ils étaient 5000. Et puis après, il y avait les mines de Monceau-les-Mines, les mines du Nord aussi, où là, ils pouvaient dépasser le millier. Mais pour une filature, donc ils sont montés jusqu'à 1000 ouvriers ici, c'est quand même important. Alors, en 1852, donc, il dirige l'usine, et il est aidé par les conseils de son père, et puis ça se passe plutôt bien. Ce qui le marque, en fait, c'est le début des années 1860, parce qu'il va à Rome avec son père. Il rencontre, ils ont une audience avec le pape Pie IX. Et c'est à ce moment-là, donc c'est en 1862, qu'il rentre dans le tiers ordre franciscain. Et ça, c'est ce qui, pour lui, est l'élément décisif, en fait, parce qu'il n'arrivait pas finalement à comprendre à quoi Dieu l'appelait, parce qu'il pensait vraiment être fait pour l'évangélisation, pour l'apostolat. Finalement, il se marie, il dirige une usine, et là, en fait, avec le tiers-ordre, il se rend compte qu'il peut, dans son milieu, là où il se trouve, être évangélisateur. Donc pour lui, c'est une révélation qu'il peut être évangélisateur alors qu'il n'est pas prêtre. Et donc parmi la population ouvrière, en fait, c'est son premier terrain d'évangélisation. Donc il va dans son usine se rendre compte que finalement la population n'a plus la foi et que les rares personnes qui ont encore la foi sont la risée de leurs camarades. Ce qui fait que les ouvriers chrétiens n'osent pas affirmer leur foi. Du coup, Léon Hermann ne fait pas vraiment de prosélytisme, mais il essaye de favoriser des espaces où les gens puissent exprimer leur foi. Voilà, donc il met en place quelques associations chrétiennes. Il fait venir des jésuites pour une grande mission. Et il fait venir donc des congrégations. Donc il fait construire une chapelle. Il met en place les enfants de Marie. Il fait venir les frères des écoles chrétiennes. Les lazaristes, qui vont être aumôniers. Et puis les sœurs de Saint-Vincent de Paul qui s'occupent surtout des filles et des enfants. Alors, Léon Hermann, en fait, en même temps, quand il avait hérité l'usine de son père avait déjà mis en place un certain nombre d'initiatives sociales. Donc je vous en ai mis quelques-unes. Donc il avait mis par exemple en place un système de soins. Donc ça s'appelait Société de Secours Mutuel. C'est-à-dire que le patron donnait de l'argent à une caisse. Et cette caisse permettait de financer les soins, de financer un médecin et de financer aussi le maintien de salaire pendant la maladie. Donc il a mis ça en place. Ça, c'était son père qui a mis ça en place. Et Léon Hermann, en fait, ce qu'il distingue, c'est que progressivement, toutes ces institutions qui sont en place, il va arrêter de les superviser pour en confier la gestion à des ouvriers. Donc ça, c'est très novateur. Je vous le développerai un peu plus tard. Donc là, on est à la fin des années 1860. Léon Hermann, donc avec sa femme Gabrielle, ont une vraie vie de foi. Donc ils ont 9 enfants. C'est une famille heureuse, sauf que en 1870, donc c'est la guerre franco-prussienne, et il y a des grandes privations, ce qui fait que ça a raison de la santé de Gabrielle Hermann, donc de sa femme, qui meurt en 1870, laissant Léon Hermann seul. Pour Léon Hermann, il garde vraiment en mémoire la vie de sa femme, et ça va le marquer parce que sa femme, en fait, lui révèle peu de temps avant sa mort qu'elle a offert sa vie au Seigneur pour que lui puisse guérir, parce qu'il avait une espèce de tumeur qui le rendait vraiment très souffreteux, et donc peu de temps avant sa mort, sa femme lui dit, ben voilà, j'ai offert ma vie pour que tu guérisses. Donc effectivement, il guérit. Et c'est vraiment à sa femme qui doit de pouvoir ensuite s'engager sur d'autres chemins. Alors à ce moment-là, il s'engage en fait à vivre les vœux évangéliques. Donc pauvreté, chasteté, obéissance à son père spirituel. Donc la pauvreté, il possède effectivement des choses, mais il vit, comme je vous disais, il vit simplement. Il a une grande dévotion au Sacré-Cœur. Donc il consacre sa vie au Sacré-Cœur, son usine, et ensuite avec d'autres patrons, il consacrera l'industrie et le commerce français, et il contribuera à financer la chapelle, une chapelle à l'est de la basilique de Montmartre, qui va être donc financée en partie par Léon Marmel. Alors, Léon Marmel aussi, il faut que je vous dise ça, parce que pour lui, c'est fondamental. On va voir ce qu'il va faire, hein, comme son activité extérieure. Pour lui, le succès qu'il va avoir, en fait, il va tout le temps lutter. Donc ça, j'ai pu le voir dans ses courriers. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de biographie récente sur Léon Marmel. La biographie qui existe, c'était 1929. Depuis, il y a beaucoup d'articles de diverses sortes. Mais en fait, j'ai pu donc accéder aux lettres et aux carnets un peu privés où on voit que Léon Marmel, en fait, lutte toute sa vie contre l'orgueil. Il est extrêmement tenté dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que tout lui réussit. Tout ce qu'il entreprend, la plupart du temps, ça fonctionne. Et donc, il lutte en permanence contre l'orgueil. Et alors, ce qui l'aide, c'est la prière des personnes malades. Sa femme donc, a offert sa vie pour lui. Et fort de cet exemple, il va voir, en fait, il visite souvent des ouvriers dans son usine qui sont malades, qui restent chez eux. Il va les visiter et puis au bout d'un moment, il a l'idée de leur demander s'ils ne peuvent pas offrir leur souffrance et offrir leur état présent pour l'évangélisation des ouvriers. Et donc il y a tout un courant qui se développe à ce moment-là d'offrir sa souffrance pour porter plus de fruits. Voilà, donc là je vais vous lire une citation où il dit, voilà, c'est sur les malades que je m'appuie, Dieu pourrait me repousser à cause de mon orgueil, il ne repoussera jamais ses pauvres, et avec de tels protecteurs, je n'ai peur de rien. Il dit aussi, si quelque succès a suivi nos efforts, c'est à leur sacrifice et à leur prière que nous l'attribuons. Voilà, donc ça me semblait intéressant de vous parler un peu de sa vie intime avec le Seigneur pour mieux comprendre ensuite quelle est son action et comment il se positionne. Alors, le contexte de l'époque, hein, bah vous le connaissez, mais je vous ai mis un extrait d'une bande dessinée qu'on a faite sur Léon Marmel. Parce que, en fait, moi, donc, j'ai fait des études en école de commerce, et quand on m'a parlé de la doctrine sociale de l'Église, j'ai regardé, et en fait, c'était des gros pavés, des livres assez indigestes. Il faut vraiment être motivé pour attaquer la doctrine sociale de l'Église. Et moi, en fait, j'ai pu y accéder, finalement, de par mon mémoire de fin d'études que j'ai fait sur Léon Marmel, et ça m'a permis de découvrir, en fait, toute la saveur de la doctrine sociale. Et donc on a mis en place un projet de bande dessinée qui visait en fait à rendre accessible la doctrine sociale de l'Église. Voilà, donc à travers Léon Marmel, rendre accessible quelques concepts qui sinon sont assez ambitieux d'attaquer ça de prime abord. Donc là, c'est un peu aussi l'ambition de cette petite conférence, c'est à partir de l'exemple de Léon Marmel, rentrer dans certains principes de la doctrine sociale. Donc on a, avec l'industrialisation, des populations qui sont complètement déracinées, l'exode rural vide les campagnes, les populations ouvrières vont de ville en ville en fonction de l'offre et la demande, dès qu'il y a un imprévu de santé, ils sont obligés de tout laisser tomber et d'aller mendier. Les hommes et les femmes travaillent 12 heures par jour, les enfants c'est pareil, 7 jours sur 7. ils n'ont plus le temps et l'énergie pour prendre soin du foyer le soir quand ils reviennent. Ce qui fait qu'il y a des conditions d'hygiène qui sont épouvantables. La prostitution se développe. Et donc à ce moment-là, on se heurte à un problème moral insondable que l'on appelle la question ouvrière ou la question sociale. Donc d'un côté, on a la seule théorie économique en vigueur à l'époque qui est le libéralisme. Donc la loi de l'offre et de la demande sans aucune restriction, qui est ce qui se pratique donc pendant les 70 premières années du 19e siècle. Donc certes, le libéralisme démultiplie le progrès scientifique, mais toutes les élites intellectuelles se rendent compte que ça dévaste moralement et que ça pousse à la misère dans la majorité de la population. Donc on a à ce moment-là des œuvres charitables qui sont mises en place, des hôpitaux, quelques écoles, des patronages, des habitats, enfin des maisons un peu plus saines aussi qui sont faites. Et à chaque fois, c'est de l'initiative individuelle ou alors de l'initiative de congrégations religieuses et puis rarement quelques philanthropes. Donc un des grands exemples, là, c'est Frédéric Ozanam, les conférences Saint-Vincent de Paul. Mais tout ça, ça forme un ensemble assez disparate selon les régions de France. Et il faut attendre donc vers 1860, Monseigneur de Ségur, qui est le fils de la comtesse de Ségur, et qui décide en fait de regrouper une fois par an l'ensemble des directeurs d'œuvres, donc les œuvres ouvrières. Dedans, vous avez donc le père d'Alzon avec les Assomptionnistes qui faisaient pas mal de choses, des écoles. Le père Timon David, c'était des patronages sur Marseille. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Donc évidemment, le père Ludovic de Besse qui participait à ces réunions. Et puis quelques usines, donc avec des patrons chrétiens. On a le baron de Lafarge, le Philibert Vrault, qui est assez connu dans la région du Nord, Philibert Vrault, qui est surnommé parfois le saint de Lille. Donc c'était un patron à Lille qui était célibataire et qui vivait comme un moine, en fait, et qui évangélisait vraiment son usine. Voilà, donc tous les ans, ils se retrouvent, et ça permet de donner une espèce de cohérence. Alors, après la guerre de 1870, un nouveau pas est franchi, donc l'union des œuvres perdure jusqu'à la fin du 19e et même au début du 20e. Mais on a une œuvre particulière qui se greffe là-dessus, qui s'appelle l'œuvre des cercles catholiques. Alors l'œuvre des cercles catholiques, donc c'est Maurice Maignan, religieux de Saint-Vincent de Paul, dans le 15e arrondissement de Paris, qui s'occupe d'un patronage et qui regroupe un certain nombre d'artisans, d'hommes du métier, et qui essaye de leur faire faire des choses ensemble, de leur faire des petites conférences. Et subitement, ils trouvent, après la guerre de 1870, deux généreux donateurs, le comte Albert Demain et René de la Tour du Pin, donc qui, eux, sont issus de l'armée, et qui sont séduits par cette idée de faire des petits groupements ouvriers. Donc le principe de l'œuvre des cercles, c'est dans chaque ville créer un comité où on regroupe les catholiques un peu aisés, donc souvent issus de l'aristocratie ou de la bonne bourgeoisie. Ils se regroupent et ils achètent des locaux. Ils mettent en place des salles de jeu, des billards, des endroits où en fait ils peuvent accueillir des ouvriers. Et les ouvriers se regroupent soit le soir, soit le week-end. Et ils peuvent participer donc à des activités, ils peuvent écouter des conférences. Donc ça leur fournit en fait un endroit de loisirs et de pour se retrouver. Donc c'est un élan en fait qui est porté par Albert Demain et René Latour-Dupin pour que toutes les élites catholiques se dévouent auprès des plus pauvres. Et ça va se répandre partout. En 6-7 ans, ils arrivent à 40 000 membres dans toute la France, donc des cercles ouvriers partout, énormément de gens qui se dévouent. Voilà, par exemple, Sainte-Thérèse de Lisieux, dans ses écrits, de temps en temps, elle parle de son papa qui va au cercle d'Alençon. Alors, dans l'œuvre des cercles, je vous ai mis quelques personnes dont on a un peu souvenir. Vous avez... Voilà, enfin, vous les avez au tableau. On a Hubert Lyautey, par exemple, qui a été particulièrement marqué par Albert Demain. L'œuvre des cercles, en fait, on ne sait plus du tout ce que c'est hein, aujourd'hui, mais c'est vraiment à la fin du 19e, pendant les 30 dernières années, de 1870 à 1900. C'est ce qui regroupe la quasi-totalité des notables catholiques. Alors, en 1873, donc je reviens à Léon Armel, en 1873, dans l'usine Armel, l'association des hommes, qui avait été constituée par Léon Armel pour regrouper les ouvriers, est rattaché à l'œuvre des cercles, dont Léon Armel a entendu parler. Donc ça se passe en 1872-1873, et Albert Demain et René de la Tour-du-Pin, à ce moment-là, découvrent l'usine de Léon Armel. Les moyens de communication, quand même, étaient pas comme aujourd'hui, ce qui fait qu'ils ignoraient complètement de Paris ce qui se passait dans le petit village où était l'usine du Val-des-Bois. Et quand ils rencontrent Léon Armel et qu'ils viennent voir le Val-des-Bois, ça les séduit complètement. Et Albert Demain dira que finalement l'œuvre des cercles au début était réservée à des artisans, plutôt des artisans dans les ateliers, des professions libérales, enfin des petits groupes, voilà, des petites entités, des petites PME, en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui des PME. Et Léon Armel, finalement, ouvre l'œuvre des cercles au monde de l'industrie, ce qui ouvre un champ d'action énorme pour Albert Demain et la Tour du Pin. Donc Léon Armel est invité au Congrès national de l'Union des œuvres, donc avec Monseigneur de Ségur. Et les participants sont enthousiasmés. Monseigneur de Ségur fait imprimer une brochure avec le discours de Léon Armel. Donc c'est lui qui fait imprimer cette brochure à ses frais, 10 000 exemplaires. Et le titre, c'est « Un fait nouveau dans la question sociale ». En fait, à ce moment-là, Albert Demain et René Latour-Dupin, ils se disent « Mais là, il y a une solution ». Pour le monde de l'industrie, ce que fait Léon Armel peut se reproduire ailleurs. Alors, à ce moment-là, Léon Armel, du coup, rentre un peu dans un champ public et il rencontre d'autres patrons, donc ceux qui gravitaient autour de l'Union des œuvres. Il rencontre aussi les membres de l'œuvre des cercles, en particulier dans le nord de la France. Et Albert Demain le fait participer aux travaux de l'œuvre des cercles. Donc des travaux qui conduisent en fait très rapidement Albert Demain à se lancer en politique. Donc il devient député et il est l'un des seuls à porter des projets de législation sur le travail. Parce qu'à l'époque la composition de l'Assemblée était... globalement très libéral, que ce soit les monarchistes ou les républicains, ils s'accommodaient assez bien du système économique libéral. Et il n'y a quasiment que Albert Demain et quelques autres députés qui portent des projets de loi sociale. Alors, on demande à Léon Armel d'expliquer ce qu'il fait. Et donc, il écrit le manuel d'une corporation chrétienne, ça c'est en 1877. Et ça, en fait, il diffuse énormément auprès du patronat du Nord. C'est-à-dire que le patronat du Nord, qui a la caractéristique d'être quand même très familial, très uni, s'inspire de ce que fait Léon Armel pour mettre en place en quelques années dans le Nord un ensemble d'institutions patronales, de prévoyance, des habitats salubres, des soins gratuits en cas de maladie, des caisses de retraite une fois la vie salariée terminée, des aides pour les femmes enceintes, des aides pour les filles mères. Voilà, donc tout ça, en fait, s'est développé dans le Nord à l'image de ce que fait Léon Armel. C'est-à-dire que souvent, Léon Armel est considéré comme l'inspirateur de ce qui s'est fait dans le Nord. Donc on a des dizaines d'usines, en fait, qui mettent en place ces institutions sociales partout en France, alors beaucoup aussi dans le monde des forges. Donc toutes les entreprises qui ont constitué ensuite le comité des forges, il y en a beaucoup qui se sont inspirées de ces modèles d'institutions économiques pour les ouvriers. Alors là où ça devient un petit peu compliqué, c'est qu'on a tous les patrons chrétiens donc essayent de mettre en place, comme je vous dis, des institutions patronales, mais globalement ils essayent de mettre en place un système qui dirige, et Léon Armel est assez sceptique à ce moment-là sur les motivations des patrons qui cherchent souvent à garder la main mise et donc qui certes améliorent le quotidien des ouvriers. C'est-à-dire que par rapport à ce qui se fait dans le libéralisme sauvage, c'est quand même bien plus agréable pour un ouvrier de travailler dans des usines chrétiennes. Mais il y a une mainmise du patron qui fait que ça peut constituer une prison dorée. Et donc ce qu'on appelle, avec un peu de pessimisme, le paternalisme, ça vient de là. C'est-à-dire que le patron dirige son entreprise, il dirige tous les instants de la vie privée de ses salariés, il s'occupe des écoles où les enfants sont scolarisés, il s'adjoint des prêtres qui en fait sont les agents du patron pour surveiller les ouvriers. Et donc les socialistes qui à l'époque commencent à prendre un peu d'ampleur, hein, les marxistes jouent là-dessus et disent oui, vous les ouvriers de ces usines, en fait vous êtes certes vous avez de quoi manger, mais votre liberté vous dépendez complètement du patron. Voilà, donc Léon Armel, en fait, lui, là-dessus, effectivement, il n'est pas d'accord avec la plupart de ses patrons qui disent le suivre, mais qui finalement agissent un peu, donc ça c'est un terme de Léon Armel, agissent un peu comme des petits seigneurs dans leur usine. Et c'est vrai que quand on lit des monographies sur des usines à la fin du 19e siècle, on a souvent l'impression que le patron, donc il s'est fait construire son château, 19e siècle, et que c'est une forme de nouvelle aristocratie, en fait. C'est-à-dire qu'il instaure un système où il domine son petit peuple. Et voilà, ça, Léon Armel ne supporte pas et estime que c'est complètement contraire à ce que, justement, on est en droit d'attendre d'un patron chrétien. Donc, Léon Armel, lui, ce qui le caractérise, c'est qu'il essaye de tourner la page du paternalisme et il confie la gestion de ces entités qui sont créées par ses soins, il confie aux ouvriers, et il confie non seulement la gestion, mais aussi certaines décisions. La confiance qu'il a envers l'initiative populaire, c'est un des fils conducteurs de sa vie, C'est-à-dire que pour lui, le devoir du patron chrétien, c'est pas simplement fournir un salaire et des conditions de vie décentes, mais c'est aussi amener l'ouvrier à être l'artisan de la résolution de la question sociale. Voilà, c'est pas lui imposer une solution, mais c'est lui permettre de participer à cette solution. Alors, là j'ai une citation d'un congrès qui a eu lieu après, avec le tiers-ordre franciscain, et un des vœux qui était inspiré par les Marmels, ce vœu c'est « Il a la mentalité franciscaine, celui qui croit que c'est pratiquer fort mal la charité que de se contenter de remédier à un mal qu'il aurait pu prévenir. » Et qui préfère aux œuvres de pure assistance les œuvres de prévoyance, les œuvres qui font coopérer l'assisté à son propre relèvement. Donc ça, c'est le principe de subsidiarité, où on essaye de faire faire à l'échelon le plus bas possible le maximum de ce qu'il peut faire. Alors, ce principe de subsidiarité, il le met aussi en place, et là, c'est vraiment à nouveau un précurseur, dans un conseil d'usine. Alors, jusqu'à présent, on parlait en fait de ce qui était finalement autour de l'usine, c'est-à-dire la vie quotidienne des ouvriers, le fait qu'ils aient assez à manger, qu'ils puissent bien dormir, qu'ils puissent avoir une vie sociale, des loisirs. Donc, dans ces domaines-là, Léon Armel a bien délégué la gestion aux ouvriers. Mais dans son usine, c'est quand même bien lui le patron. Il ne s'agit pas de mettre en place une co-gestion. Il veut rester le patron. Mais il met en place ce conseil d'usine qui permet de dialoguer, en fait d'instaurer un dialogue régulier avec des délégués ouvriers. Et il parle du salaire, des conditions de travail, de l'amélioration qu'on peut apporter aux machines. Et c'est principalement grâce à ce comité, à ce conseil d'usine, que l'usine Armel dépose des brevets. C'est-à-dire que loin d'être un handicap, finalement, ces échanges avec les salariés permettent de déboucher sur des solutions qui sont extraordinaires, parce que en 1882, donc, un brevet est déposé que toutes les filatures ensuite adoptent et qui permettent de faire des bonnes rentrées financières pour l'usine. Alors, Léon Armel, dans son usine, ça, d'un point de vue économique, c'est intéressant. Il y a un actionnariat donc familial, mais il y a aussi un compte actionnaire qui est ouvert au nom de Notre-Dame de l'usine. Donc la Sainte Vierge a une participation dans l'usine. Elle est intéressée seulement aux bénéfices. En cas de perte, elle n'a rien à payer. Et quand il y a des bénéfices, donc ils alimentent cette caisse, et cette caisse permet de financer toutes les œuvres sociales de l'usine. Alors, dans le conseil d'usine, c'est vraiment là que se trouve c'est le premier endroit où est organisé en fait ce dialogue social. Alors, on arrive en fait à vraiment un climat de confiance. Les délégués peuvent avoir des réclamations sur des décisions prises par des contremaîtres. Et puis on arrive aussi à des accords d'entreprise. Par exemple, la mise en place du repos le samedi après-midi sans baisse de la productivité. Ça, c'est issu d'un accord passé au conseil d'usine. Et c'est vraiment ce conseil d'usine qui est considéré comme l'ancêtre du comité d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Donc à ce moment-là, les patrons, les évêques, les prêtres, des économistes, des sociologues viennent au Val des Bois pour étudier comment ça fonctionne, comment ça peut bien marcher. Alors, toutes ces initiatives qu'on a vues avec l'Union des œuvres, l'œuvre des cercles catholiques, ce que fait Léon Armel, ça permet de donner une perspective plus chrétienne au travail, d'humaniser les méthodes de gestion du personnel. Et en fait, là, on a un tournant très intéressant, c'est-à-dire que l'ensemble des œuvres charitables entre 1850 et 1875, ça visait en fait à combattre les conséquences du libéralisme, alors que le travail doctrinal qui se passe en France avec l'œuvre des cercles, ça conduit à se dire, ben finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative au libéralisme ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose ? Et ces réflexions se passent dans toute l'Europe de la même manière. On se dit qu'on pourrait remettre en cause cette doctrine dominante. D'ailleurs, de la doctrine dominante du libéralisme commence à être très sérieusement chahutée par le marxisme. Donc c'est l'occasion, finalement, c'est la porte ouverte pour qu'il puisse y avoir une alternative au marxisme et au libéralisme. Alors, pour ça, Léon Harmel organise un déplacement de patrons à Rome. Le premier, c'est en 1885. Il part avec 100 patrons à Rome. Il rencontre le pape et ils disent au pape, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer la question sociale ? Alors, le pape, il dialogue et puis il dit, revenez avec des ouvriers. Donc, en 1887, ils reviennent avec 2000 participants. Et le pape est extrêmement content de ces échanges avec les ouvriers. Il passe beaucoup de temps à parler avec les ouvriers. Il demande aussi aux familles aristocratiques de Rome, qui ont un rôle dans la cour pontificale, de servir à table les ouvriers. Donc les ouvriers, quand ils reviennent de Rome, ils ont des souvenirs excellents. Et puis, c'est vraiment des moments où la papauté se rapproche vraiment du peuple de manière visible. Donc Léon XIII est extrêmement heureux de ces rencontres. Et il fait promettre à Léon Harmel de revenir avec 10 000 personnes en 1889. Donc c'est bien ce qui se passe en 1889. Donc là, on a une organisation qui est extraordinaire pour l'époque, hein, parce que faire venir 10 000 personnes, c'était 4 jours de train, des tas d'embêtements avec la douane, l'Italie qui était opposée au pape parce qu'il venait de récupérer les états pontificaux, donc qui était extrêmement hostile à cette venue en masse de Français qui venaient honorer le pape. Voilà, mais finalement ça se passe très bien. Le pape est très heureux. Et en parallèle, on a une tentative de formalisation de la doctrine sociale de l'Église qui est faite avec des dirigeants de séminaires et avec des théologiens de différentes congrégations, ce qui conduit à éditer en 1889 le Catéchisme du Patron. Alors le Catéchisme du Patron, c'est très difficile à retrouver aujourd'hui, ça a été compliqué à éditer parce que il y avait des sujets sensibles dont la plupart des patrons ne voulaient pas qu'on leur parle, notamment ce qui était le salaire équitable, quelle était la définition du salaire, la définition de l'autorité, les droits des ouvriers et les devoirs du patron, alors que les patrons y voyaient plutôt l'inverse. Donc ce catéchisme du patron paraît en 1889. Et la plupart des questions qui sont dans ce catéchisme, qui est sous la forme ancienne, c'est-à-dire des questions et des réponses, la plupart des sujets sont repris en 1891 dans l'encyclique Rerum Novarum. Donc Rerum Novarum, c'est l'encyclique fondatrice de la doctrine sociale de l'Église adaptée au monde industriel, en fait. Et ça représente pour Léon Harmel et ses amis la consécration finalement de leurs orientations. Léon Harmel fait dire que l'encyclique est la récompense des pèlerinages ouvriers. Et Léon XIII aborde dans cette encyclique des sujets extrêmement fondamentaux sur le salaire, sur le principe de subsidiarité et sur un certain nombre d'orientations que finalement on n'a toujours pas fini de mettre en place dans notre société actuelle. Alors l'encyclique résout un point aussi qui nous intéresse ici, c'est celui des syndicats. Léon XIII encourage les syndicats chrétiens, qu'ils soient mixtes, donc mixte et regroupant patrons et ouvriers, un peu sur le modèle du conseil d'usine, où on a donc le patron et les ouvriers qui sont ensemble. Mais il encourage aussi les syndicats qui seraient composés des seuls ouvriers. Alors ça, les marxistes, en fait, essayaient de mettre en place des syndicats composés seulement d'ouvriers. Alors, c'était pas vraiment structuré. Ça conduisait généralement à des révoltes dans certaines usines. Donc là, le fait que Léon XIII mette une ouverture pour des syndicats composés des seuls ouvriers, c'est... Enfin, les patrons chrétiens ne veulent pas l'entendre à l'époque, quel que soit le pays. Et donc, Léon Harmel se retrouve à nouveau, finalement, assez seul là-dessus, parce que lui, il estime qu'il y a un certain nombre d'endroits où il faut absolument mettre des bornes au libéralisme. Parce que le problème du libéralisme, en fait, c'est que celui qui a de l'argent n'a pas de contre-pouvoir. Donc il se dit qu'il faut vraiment mettre en place ces syndicats. Donc il soutient les syndicats qui sont composés seulement d'ouvriers. Et ici, vous avez donc sur l'image le congrès ouvrier régional de Reims en 1893, qui est finalement le premier congrès qui est géré intégralement et dirigé par des ouvriers chrétiens, et qui est l'origine du syndicalisme chrétien, donc la CFTC, qui a été fondée simplement après la Première Guerre mondiale, donc en 1919. Mais dès 1893, on a au congrès ouvrier de Reims et au congrès qui suivent, on a les fondateurs de la CFTC qui sont présents. Alors Léon Harmel, il fonde aussi une association de patrons chrétiens, donc qui s'appelle l'Union fraternelle du commerce et de l'industrie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. On a quand même des groupes qui sont aujourd'hui très connus, comme Bonduel, les légumes. Pierre Valton, c'était fondateur de Petit Bateau. Champagne, Mouette et Chandon. Donc en bas à droite, je vous ai mis le Léon Chagot, donc qui dirigeait toutes les mines de Monceau-les-Mines, qui a construit la ville de Monceau-les-Mines. Donc Léon Harmel groupe tous ses patrons pour essayer de dialoguer avec les syndicats ouvriers. Voilà, donc tout ça est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais ce sont les embryons quand même d'un véritable dialogue social entre syndicats ouvriers et syndicats patronaux. L'Union fraternelle du commerce et de l'industrie devient, après la Première Guerre mondiale, un syndicat de patrons qui a un vrai dialogue social avec la CFTC. Alors un autre sujet aussi où Léon Harmel est assez innovant, c'est sur le salaire. Rerum Novarum a toute une grosse partie sur le salaire qui doit être digne et suffisant pour faire vivre l'ouvrier. Alors là, suffisant pour faire vivre l'ouvrier, oui, mais l'ouvrier, il a une femme et des enfants. Donc dans les usines, les ouvriers, leurs femmes et leurs enfants, tout le monde travaille. Donc il faut autant de salaire que de personnes qui travaillent dans la famille. Et Léon Harmel est éclairé par un prêtre avec qui il est vraiment en contact, qui est aussi un tertiaire franciscain, c'est le père Léon Dehon, D-E-H-O-N, fondateur des prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin. Alors ce prêtre a un rôle extrêmement moteur dans la démocratie chrétienne, dans le mouvement La Démocratie Chrétienne à la fin du 19e, et il fournit un aumônier à Léon Harmel. Et souvent, il vient voir Léon Harmel en lui disant « ça serait bien d'arrêter le travail de nuit, parce que c'est pas génial pour la santé des ouvriers. » Et il lui dit aussi « le salaire pour faire vivre l'ouvrier, c'est très bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'on tienne compte non seulement du travail fourni par l'ouvrier, mais aussi de la composition familiale de l'ouvrier. Et donc, on a à ce moment-là la mise en place du sursalaire familial, qui est le premier pas vers les allocations familiales. Donc, les allocations familiales trouvent leur source, en fait, dans l'usine Armel, où, pour la première fois, est mis en place ce sursalaire, donc qui s'ajoute au salaire du chef de famille et qui permet de donner un minimum décent pour chaque membre de la famille. Alors, ça se met en place lentement, mais là, donc, vous avez un exemple d'une famille avec 10 enfants, et cet exemple, en fait, est tiré d'une brochure de l'époque, où on explique, en fait, au jury de l'exposition universelle de 1900 comment ça fonctionne au Val-des-Bois, ce système de sursalaire. Et donc l'usine Armel, à l'exposition universelle de 1900, a 2 ou 3 médailles d'or, je ne me souviens plus, pour ce système assez extraordinaire. Alors, les allocations familiales ensuite seront étendues grâce à un autre tertiaire qui s'appelle Émile Romanet. Voilà. Parce qu'en fait, ça se heurtait, ce problème du sursalaire. Un patron, en fait, du coup, s'il met en place un système de sursalaire familial, son usine va coûter plus cher qu'une usine où le patron n'embauche que des célibataires. Donc, l'idée, en fait, qu'aura Émile Romanet, c'est de créer une caisse de compensation. C'est-à-dire que chaque usine doit cotiser à cette caisse, et cette caisse reverse aux ouvriers qui ont plusieurs enfants. Ce qui permet, en fait, de mutualiser le financement de ces allocations familiales. Donc ça, c'est vraiment Émile Romanet qui transforme le sursalaire familial du Val-des-Bois dans le système des allocations familiales, qui seront vraiment légalisées qu'au début des années 1930. 32, voilà. Et c'est que en 1931 qu'on aura donc une distinction, enfin donc la nouvelle encyclique sur la condition sociale, qui s'appelle Quadragesimo Anno, donc qui est celle pour le 40e anniversaire de Rerum Novarum, où là, le pape explique que le salaire doit permettre de pourvoir à la subsistance de l'ouvrier et à celle des siens. C'est-à-dire que c'est véritablement une avancée sociale que de permettre qu'il n'y ait qu'un seul membre de la famille qui travaille. Voilà. Et là, on voit bien que finalement, aujourd'hui, dans notre société contemporaine, on est dans un mouvement inverse. Finalement, tout est fait pour permettre aux deux membres du couple de travailler, à tel point que quand il y en a qu'un des deux qui travaille, la famille a un peu de mal à joindre les deux bouts. Voilà, donc le progrès social des années 1930, finalement, est remis en question, je pense, aujourd'hui. Alors, Léon Armel, avec le père Dehon, voit souvent le pape Léon XIII. Léon XIII, en fait, c'est finalement un des seuls laïcs avec qui il a des relations suivies, c'est Léon Armel. Léon Armel, de temps en temps, se brise le protocole pontifical et se promène avec Léon XIII dans les jardins du Vatican, ce qui était absolument inimaginable à l'époque. Parce que le pape était, vous avez vu tout à l'heure l'image du pèlerinage, le pape avait quand même sa grande tiare, il était porté par des gens, il y avait tout un faste. Et là, le pape Léon XIII a vraiment une relation amicale avec Léon Armel. Et le pape Léon XIII, c'est lui aussi qui a, quelques années avant Rerum Novarum, écrit une encyclique pour réformer le tiers-ordre franciscain. Donc Léon XIII, tout naturellement, dit à Léon Armel, ben voilà, vous êtes tertiaire franciscain, donc je vous demande de voir comment le tiers-ordre franciscain peut s'adapter à ce que j'ai écrit dans Rerum Novarum. Et donc, il missionne, en fait, Léon Armel en tant que laïc pour aider le tiers-ordre à s'adapter à ces évolutions sociales. Alors, Léon Hamel, c'est pas lui qui est le, comment dire, l'acteur principal, parce que les acteurs principaux, c'est quand même les franciscains et les capucins qui avaient la, la direction de, du tiers-ordre et qui animaient l'ensemble des fraternités de l'époque. Le tiers-ordre franciscain, à l'époque, c'est quand même une, c'est la principale, voire la seule association internationale de laïcs. Il y a des centaines de milliers de membres. En France, la plupart des prêtres séculiers faisaient partie du tiers-ordre en même temps. Albert Demain était du tiers-ordre. J'ai l'impression, enfin, je ne connais pas suffisamment le tiers-ordre, hein, mais j'ai l'impression que c'était vraiment ceux qui voulaient s'engager vraiment dans leur foi, qui voulaient vivre leur foi de manière authentique et sincère. Finalement, le tiers-ordre, c'était l'engagement à prendre. Voilà, parce qu'il y avait des engagements de prière régulière, des engagements de, en termes de vie morale. Et ce tiers-ordre, en fait, Léon XIII pense qu'il va pouvoir être un peu l'instrument, enfin le bras armé de la résolution de la question sociale. Alors là, j'ai trouvé une citation du père Ludovic de Besse. Donc vous aviez une conférence sur le père Ludovic de Besse, et qui explique en fait quel est le sens de la réforme du tiers-ordre en cette fin du XIXe siècle. Et donc il dit... Au temps de François d'Assise, le peuple avait le respect du prêtre, elle l'écoutait volontiers, il croyait au ciel et à l'enfer. Mais Léon XIII nous l'a rappelé, les franciscains à l'époque osaient prêcher sur les places publiques. Les tertiaires n'allaient au peuple qu'à la suite des religieux. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Tertiaires, mes amis, au lieu de nous suivre, vous devrez nous précéder. Voilà, donc les franciscains et les capucins estimaient que c'était au tertiaire, en fait, de trouver sur le terrain économique des occasions d'évangéliser. Et ensuite, une fois que le poisson était pêché, c'était eux qui se chargeaient de la vie de foi de ces personnes. Voilà, alors je termine par une petite citation. En fait, Léon Hamel est donc très peu, enfin a été pas très connu finalement. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur certains aspects de sa vie, en fait, ce qui est assez frappant quand on étudie Léon Hamel, c'est que on a souvent des gens qui s'intéressent à une partie de ce qu'il a fait. C'est-à-dire juste l'aspect allocation familiale. Par exemple, il y a toute une littérature allocation familiale, et là on dit Léon Hamel. Ou bien les conseils d'entre les comités d'entreprise, hop, Léon Hamel. Donc là, moi j'ai essayé de vous donner un panorama assez vaste, en un temps assez bref. Mais si vous avez des questions sur un sujet ou un autre, je peux essayer de vous répondre. Voilà.